Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et en ce lundi à 8h15, nous allons parler d'un collège avec Élodie Le Gall, présidente du collectif de soutien du collège Pirandal, qui est situé à Corlay dans les Côtes d'Armor. Elle est venue justement de Corlay pour être avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors je disais, on va parler d'un collège, j'aurais pu évidemment parler d'un combat aussi, un combat pour conserver un collège dans les Côtes d'Armor, le collège de Corlay. Qu'est-ce qu'il risque, le collège de Corlay, de disparaître ?
Oui, on nous a annoncé la fermeture pour la fin de l'année scolaire.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'histoire pour expliquer pourquoi on en arrive là aujourd'hui ?
Oui, alors on a un collège qui est un petit collège, c'est un collège 4 classes. On est en centre-Bretagne, donc en territoire considéré comme ultra-rural. On est dans une zone de faible densité de peuplement, donc on a un petit collège. Qui est un petit collège depuis très longtemps, puisque 4 classes, ça dure depuis plusieurs décennies. Il a été encore plus petit que maintenant. Il était tombé à 50 élèves dans les années 90, donc à la fin des années 90. Voilà, donc il n'y a pas de changement pour nous. C'est notre petit collège, il l'est encore. Et à la toute fin de l'année scolaire dernière, donc le 24 mai précisément, le conseil départemental nous a annoncé qu'ils allaient le fermer dans un an. C'est quelque chose qui a été annoncé de façon brutale, sans qu'il n'y ait jamais eu aucune concertation. Le conseil départemental a une commission jeunesse qui se réunit, j'imagine, assez régulièrement. Jamais cette commission jeunesse n'a discuté d'une éventualité de fermeture du collège Pirandal. Jamais leur commission permanente ni leur session plénière n'ont abordé le sujet. Jamais les usagers, les parents d'élèves, les personnels, les élus n'ont été interrogés, n'ont été concertés sur une éventuelle fermeture du collège. Et donc, on découvre tous, donc usagers, parents, personnels, élus, le 24 mai, avec la venue du vice-président en charge des affaires scolaires du département à Corlay, la décision prise, annoncée ce jour-là comme actée irrévocable de fermeture du collège à la fin de l'année scolaire 2023-2024.
On vous a donné une explication, on vous a dit pourquoi cette décision était prise, aussi brutale soit-elle.
Alors on nous dit que le collège est petit, et comme le collège d'à côté est aussi petit, on nous dit qu'on va fermer un collège. Parce qu'ils sont petits, on nous a présenté à ce moment-là des arguments qu'on a et qu'on continue à réfuter, nous disant qu'il y a un problème avec les bâtiments. Alors le jour de cette réunion, on nous dit que ça coûterait 5 millions d'euros de rénover votre collège, il faut mettre en place les normes, handicap, etc. On leur a répondu en disant le collège, il est équipé d'un ascenseur et de rampes d'accès pour les fauteuils. Il est accessible aux handicapés. Ah oui, mais bon, faudrait refaire l'isolation par l'extérieur, etc. Donc, nous, on est capable de répondre à ça, que à peu près tout le parc bâtimentaire du département, hormis ce qui a été construit ou rénové à neuf ces 4-5 dernières années, a besoin à moyen terme de travaux de rénovation énergétique. Notre collège, comme à peu près tous les autres, que ça peut être fait aisément, échelonné dans le temps. Donc il n'y a pas de problématique particulière liée à ça, donc c'est un argument de mauvaise foi. On nous dit que les effectifs sont faibles, donc on répond oui, et c'est pas nouveau. C'est un petit collège, on est à la campagne et les prévisions d'effectifs sont à une grande stabilité avec une petite hausse. On a une grande stabilité avec des petites fluctuations annuelles, quelques élèves de plus, quelques élèves de moins. Mais en fait, on a un collège extrêmement stable. Et les chiffres même utilisés par le conseil départemental prévoient une hausse de 20% des effectifs. Alors 20% sur des petits effectifs, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas de danger concernant les effectifs de la structure. On reste sur ce qu'on connaît et qui fonctionne. Donc il y a eu cet argument-là, et puis il y a eu l'argument de la facilité de gestion pour l'éducation nationale. On nous a dit il y a du mal à stabiliser les personnels, c'est compliqué pour l'éducation nationale. Donc que ça complique la vie, les petits établissements par rapport aux gros en termes de gestion, gestionnaire, on va dire ça sans l'ombre d'un doute, mais en fait, c'est pas un argument qui est entendable. On a droit aux services publics dans les zones rurales et faiblement peuplées, comme dans les zones urbaines et dans les métropoles. Donc, qu'on ait des personnels qui aient plus du mal à se stabiliser, on le constate, mais c'est aussi un choix, qui est le choix de l'éducation nationale, d'avoir supprimé les postes de titulaires toutes ces dernières années. C'est pas très très vieux, hein. Ça date vraiment de ces 10 dernières années. Au fur et à mesure des mutations des départs en retraite, on a un personnel qui est titulaire de son poste dans l'établissement, même s'il doit faire éventuellement un complément de service dans un autre établissement. Quand il s'en va, le poste est supprimé. Et donc, on se retrouve avec des contractuels ou des personnels titulaires remplaçants, bah, qui de fait sont affectés pour un an, ça peut changer tous les ans. Donc on a une déstabilisation qui se fait par des choix, c'est pas une fatalité due à la taille de l'établissement. Et en plus, ce qu'on constate, c'est que ces personnels contractuels et titulaires reviennent souvent, demandent à revenir, sont extrêmement mobilisés, extrêmement porteurs. Toutes ces dernières années, des projets très lourds pédagogiquement, toute la liaison avec l'école primaire, avec un travail fait sur les sciences avec les élèves de CM1, CM2 qui venaient pendant toute l'année du CM1, du CM2, une après-midi entière, tous les 15 jours au collège, au labo de sciences, travailler avec les 6e, faisant des sorties communes, CM2, CM1, 6e, faisant un travail de lien vraiment très très approfondi. C'est la liaison école-collège la plus développée de tout le département. Ça a été porté par une enseignante contractuelle qui est revenue pendant des années et des années. Donc, dire il y a des contractuels, l'équipe n'est pas stable et pédagogiquement ça vaut rien, c'est d'une mauvaise foi absolue. L'an dernier, il y a eu un voyage qui s'est fait. L'année précédente aussi, ce sont essentiellement des collègues contractuels qui ont porté ces projets-là.
Alors, il faut replacer aussi le contexte social. Nous sommes en Centre-Bretagne, une région qu'on dit toujours défavorisée. Il n'y a pas du tout d'aspect péjoratif dans ce que je dis, mais le Centre-Bretagne a du mal à exister un peu face à la côte, aux côtes, on pourrait le dire comme ça. Il y a aussi tout un aspect social. Il y a de la précarité en Centre-Bretagne, comme partout ailleurs. La disparition de ce collège changerait forcément un équilibre social.
Oui, ça c'est flagrant. Alors là, on a en plus, effectivement, on ne le prend pas de façon péjorative, on est dans un territoire plutôt pauvre quand on regarde les revenus par habitant des communes. Au niveau du collège, on sait qu'on a donc l'indicateur utilisé par l'éducation nationale qui est l'indice de positionnement social par rapport aux catégories sociales des familles. On sait qu'on a le collège le plus défavorisé des Côtes d'Armor. Les autres collèges qui ont des indices de positionnement sociaux faibles sont classés en REP, réseau éducation prioritaire, et ont donc des moyens spécifiques.
Qu'est-ce qui fait que par exemple, le collège de Corlay n'est pas placé en zone prioritaire?
Alors nous, on en a parlé en tant que parents d'élèves ces dernières années, et donc on en a parlé à la chef d'établissement en demandant si c'était possible pour avoir ces moyens REP, qui consistent à avoir une prime pour les personnels. Ça permet de les fidéliser, avoir des moyens supplémentaires pour les actions pédagogiques, donc des crédits supplémentaires, des formations spécifiques pour les personnels. Donc il y a des moyens. Et en fait, ce qui nous a été répondu par le directeur académique des services de l'éducation nationale de façon un petit peu méprisante, c'est que de toute façon, pourquoi on voudrait un classement REP? On a déjà les effectifs REP. En REP, on ne peut pas avoir plus de 24 élèves par classe, comme si c'était rien d'autre que ça. Donc on nous a refusé des moyens qui correspondaient à cette population, aux caractéristiques sociales de notre territoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas la volonté d'aider le collège. Il n'y a pas la volonté de répondre aux besoins du collège. Il n'y a pas la volonté de répondre aux besoins de la population. Il y a plutôt la volonté de laisser aller et de ensuite appuyer dessus pour dire ce collège, il est petit, il ne fonctionne pas et donc il faut le fermer. Dans les arguments sociaux, on nous dit si vous avez une population socialement défavorisée au collège, c'est parce qu'il y a un évitement bourgeois. Et donc, ça veut dire que le collège a un problème, il n'est pas attractif. Et on est scandalisé par ça, parce qu'en fait, déjà, à Corlay, des bourgeois, il n'y en a pas. Et puis, on explique aussi, on est sur une population avec un nombre d'habitants qui est faible, hein, comme je disais. Et on constate que toutes les professions libérales, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les chefs d'entreprise du secteur, il y en a quand même. Ce sont des gens qui sont d'anciens ou de futurs parents d'élèves du collège public. Là, il se trouve que le hasard fait qu'on a un petit creux générationnel des CSP+ sur le secteur. En tout cas, c'est un fait. On constate que ce sont des gens qu'on trouve aussi dans le collectif de défense qui sont là en manifestation. mais qu'aujourd'hui, les populations les plus favorisées n'ont pas d'enfants d'âge collégien. Bon. Voilà, il y a des moments comme ça.
Et pourtant, on pourrait imaginer dans l'époque dans laquelle on vit, avec les problèmes que l'on entend chaque jour à la radio, on parle beaucoup de mixité sociale, de mixité par rapport aux élèves, justement, dans l'éducation nationale. On prône, en tout cas les enseignants prônent cette mixité sociale. On pourrait imaginer qu'il y aurait une voie à trouver, justement, pour le collège de Corlay.
Cette mixité, elle existe vraiment. Le collège de Corlay, il a toujours scolarisé les enfants de Corlay, avec une proportion de scolarisation au privé qui est la même que dans le reste du département. Ça, c'est un argument aussi, un argument mensonger qui est utilisé par le conseil départemental, qui est de dire qu'il y a un taux de fuite dans le privé, un taux de fuite qui serait énorme. En fait, on est à 40% scolarisé dans le privé. La moyenne du département, c'est 35%. Donc, on est pareil. Hein. Sachant qu'on a en plus, nous, une concurrence des collèges privés qui est plus forte qu'ailleurs. Ils ont leur propre réseau de ramassage scolaire. Donc on fait face à cette concurrence forte et en fait c'est pas on est au même niveau que le reste des Côtes d'Armor et donc on a une mixité qui se fait dans le collège public où tout le monde est scolarisé. C'est pas une catégorie privilégiée qui irait au privé. On constate que les gens qui font ce choix-là du privé, c'est un peu tout le monde. C'est des ouvriers, c'est des employés, c'est pas spécifiquement des catégories privilégiées. Donc la mixité, elle existe, hein, la mixité sociale, parce que c'est vraiment toutes les catégories professionnelles, toutes les catégories du pays de Corlay qui se retrouvent scolarisées au collège, quoi.
Alors la fermeture de Corlay, ça veut dire aussi la construction d'un autre collège à Saint-Nicolas-du-Pélem. Alors il ne s'agit pas de dire du mal de Saint-Nicolas-du-Pélem ce matin au micro de Bretagne 5, mais simplement voilà, c'est ce qui a été choisi par le département et c'est ce qui ne passe pas finalement.
Alors effectivement, alors qu'on fasse des travaux, qu'on construise quelque chose à Saint-Nicolas-du-Pélem, il n'y a pas de problème. Par contre, que ça nécessite la fermeture du collège de Corlay, là, c'est un énorme problème. Et en plus, dans cette histoire, on a à tous les moments mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on voit bien que la décision, elle a été prise par une poignée de personnes en catimini avec une volonté de secret. Le moment où ça a été annoncé publiquement, c'était quasiment au jour près, le moment le plus tard pour l'annoncer, puisque par rapport aux instances internes du conseil départemental, ils avaient une commission permanente, ils étaient à quelques jours d'envoyer l'ordre du jour pour cette commission permanente. Donc on est sur une annonce qui se fait à ce moment-là, parce qu'ils ne peuvent pas reculer plus. Et donc cette poignée de personnes qui a pris cette décision, ils l'ont fait à l'envers, c'est-à-dire comment on pourrait justifier la construction d'un collège neuf à Saint-Nicolas-du-Pélem. Comment on pourrait renvoyer les élèves à Saint-Nicolas-du-Pélem? Pour faire ça, il faut fermer Corlay. Donc, on annonce la fermeture de Corlay pour justifier ça, tout en étant dans quelque chose qui ne se tient pas. Et nous, on le dit depuis 4 mois, 6 mois, même maintenant. On annonce la construction d'un collège pour 200 élèves à Saint-Nicolas-du-Pélem, sachant que c'est un effectif qui est intenable. Les effectifs actuels, c'est 90 élèves à Saint-Nicolas-du-Pélem, avec des prévisions qui sont sur une petite baisse dans les 10 ans à venir. Donc admettons 80 à 10 ans. Le secteur scolaire de recrutement du collège de Corlay, il est éclaté par ce projet, parce qu'ils ont bien été obligés de se rendre compte que les communes qui actuellement scolarisent sur Corlay, mais sont éloignées de Saint-Nicolas-du-Pélem, ne pourraient pas envoyer leurs enfants là-bas. Donc sur les 6 communes actuellement scolarisées à Corlay, il y en a 3 qui sont partagés sur les collèges de Quintin et Murs de Bretagne, et 3 qui sont censés aller sur Saint-Nicolas. Donc déjà, on voit qu'on éclate un tissu social du pays de Corlay pour envoyer peut-être 30 ou 40 élèves grand maximum à Saint-Nicolas. On est non seulement très loin des 200, on est très loin des 150, et en plus, on insiste là-dessus. Il y a une colère, une amertume qui vont durer sur le secteur de Corlay, qui, entre autres conséquences, vont encore encourager la scolarisation dans les établissements privés. Donc, on a là quelque chose qui est une fuite en avant du conseil départemental pour dire on va faire ce collège à Saint-Nicolas-du-Pélem sans avoir discuté de rien avec personne avant, sans avoir fait d'études de terrain, sans avoir fait d'études d'impact, sans avoir concerté aucun des usagers, aucun des personnels. On l'a annoncé, on va le faire et à marche forcée, on y vient.
Décision comptable et politique, c'est ce qu'on lit hein, parfois dans l'expression des défenseurs du collège de Corlay. On dit voilà, c'est une décision politique, c'est une décision comptable.
Oui, mais alors une décision comptable, mais de mauvaise comptabilité, hein, parce qu'on voit qu'il y a toujours On saucissonne les différents budgets. Donc, pour le budget de fonctionnement, on a l'impression que chaque euro dépensé, c'est un euro de trop. Donc là, le collège de Corlay en fonctionnement, il ne coûte pas très cher. La fermeture du collège de Corlay, il y aura un transfert au moins de 2 des 4 agents. Il y aura un transfert d'une partie des frais de fonctionnement avec les élèves. Évidemment, ils vont continuer à coûter. Donc, au grand maximum du maximum, c'est 5 000 euros d'économie par an sur des frais de fonctionnement sur un budget des collèges qui est de 4 500 000 euros annuels au département. Donc là, on est sur vraiment un calcul d'apothicaire minable, avec à côté de ça, un collège neuf à 10 millions d'euros pour une centaine d'élèves, où là, pour le coup, donc je vais citer un extrait du rapport de la Chambre régionale des comptes que le Conseil départemental aime bien utiliser pour justifier la fermeture, en disant « La Chambre régionale des comptes dit qu'il y a trop de collèges et qu'à Corlay et Saint-Nicolas, il faudrait en fermer un ou les deux. » Et donc, ils s'appuient là-dessus pour dire « On est obligé d'en fermer un. » Alors, ils sont obligés de rien du tout. La Chambre régionale des comptes, elle n'est pas au pouvoir. Elle n'a pas la capacité à décider. Et dans son rapport, elle préconise tout un tas d'autres choses que le conseil départemental assume de ne pas faire. Mais donc, ils s'appuient là-dessus, et ils ne vont pas jusqu'au bas de la préconisation concernant Corlay et Saint-Nicolas, qui dit qu'il serait déraisonnable d'investir 10 millions d'argent public dans un collège qui n'aurait pas minimum, grand minimum, 150 élèves de façon pérenne. Donc ils ne vont pas jusque-là dans la lecture, ils affirment qu'ils auront les 150 élèves. Nous, on fait les calculs, ils ne les auront pas, ils en seront très loin. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que dans ce dossier, tout a été fait à l'envers et en dépit du bon sens. Quand on veut faire un investissement avec l'argent public de cette ampleur, on commence par faire une étude de terrain sérieuse, on commence par voir toutes les options, toutes les alternatives, par écouter tous les acteurs, tous les gens qui sont concernés, et après on voit ce qui est le plus intelligent à faire.
Moi j'avais envie de me poser la question, les élèves dans tout ça, les familles dans tout ça, on parlait tout à l'heure d'un territoire où il y a aussi de la précarité, où c'est pas toujours facile tous les jours, tout le monde n'a pas de voiture à Corlay, hein, ça, et on est en Centre-Bretagne avec des transports qui sont pas toujours faciles non plus, transports publics j'entends, ça va poser des problèmes de ce point de vue-là.
Oui, donc là c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est pour ça qu'on est aussi mobilisés, c'est-à-dire que sur Corlay, il y a pas mal de familles avec des enfants qui arrivent là parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des logements qui restent accessibles quand on peut plus se loger dans les villes ou sur la côte. Donc des populations qui peuvent être en situation de précarité, et à l'école primaire ou au collège, on a un certain nombre de familles sans permis, sans voiture, avec des enfants qui sont autonomes, qui vont à pied au collège, des parents qui peuvent aller aux rencontres parents-professeurs à pied, des enfants qui peuvent rentrer manger chez eux. Ils sont un certain nombre. Et donc là, c'est quelque chose de dramatique en fait pour des familles qui ont fait le choix de venir dans un territoire rural, mais avec des services publics. On en a un besoin vital de nos services publics, et là qui vont se retrouver complètement démunis. Pardon. On sait déjà qu'il y a des familles qui sont arrivées, qui sont locataires, qui n'ont pas d'attache, qui vont repartir. Mmh. On sait déjà qu'il y a des gens qui ont renoncé à s'installer dans le pays de Corlay. Une des mamans d'élèves qui est engagée dans le collectif et également agente immobilière sur le secteur, c'est 2, 3, 4 ventes de maisons qu'elle n'a pas faites parce que les gens lui ont dit « Ah ben, on a entendu que le collège allait fermer ». Donc les gens, ils sont partis chercher ailleurs. Donc les effets, ils se font déjà sentir.
Ce sont des effets pervers, finalement. Oui. On dit qu'on ferme le collège, donc les gens ne viennent pas, parce qu'un collège, c'est tout aussi important, alors peut-être certainement plus socialement, mais qu'une poste, qu'un service public, une
ah,
gare.
Oui, oui, voilà. Non, c'est vraiment un service fondamental. On est à Corlay, on est loin de tout, on est toujours en limite de tout. Quand les gens savent où c'est Corlay, ils disent « Ah oui, c'est loin ». Oui, oui, c'est loin. On est loin de Saint-Brieuc. On est loin même de Loudéac, qui est notre commune centre de la communauté de communes. On est en extrême périphérie. On est la dernière commune de la Comcom. On est en limite de tout, tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'à Corlay, on est resté un pôle rural avec un certain nombre de services, de commerces, et avec un territoire du pays de Corlay qui correspond à l'ancien canton, à l'ancienne communauté de communes de Corlay et au territoire du secteur scolaire du collège de Corlay. Donc, on a une cohérence et une cohésion territoriale qui s'est construite depuis longtemps et qui tourne, entre autres, autour de ce service public qu'est le collège. Donc c'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur pour nos enfants d'autonomie, de bien-être. Ceux qui sont dans Corlay ou à côté viennent à pied, viennent en vélo. Ils sont une vingtaine cette année d'externes, des enfants qui rentrent manger chez eux le midi, qui viennent à pied, qui viennent en vélo. Donc là, on a vraiment des enfants qui vont tout perdre et des familles qui vont tout perdre. Et puis, les communes à côté, donc les enfants qui viennent en car, pour beaucoup, ils sont à 10, 15 minutes, 20 minutes de transport, grand maximum, parce qu'on est sur des distances de 3, 4 kilomètres, on est sur des petites distances. Et donc, quand le vice-président du conseil départemental vient vous dire « aucun enfant ne fera plus de 3 quarts d'heure de transport » et qu'il est content, comme si c'était quelque chose dont on devait se satisfaire, de voir des enfants qui ont une grande autonomie et qui sont proches de leurs copains de classe se taper 40 minutes de transport pour aller au collège le matin, 40 minutes pour revenir le soir, et comme si le fait de les envoyer dans un autre collège, en dehors de leur bassin de vie et de leur territoire, parce que Saint-Nicolas, c'est un autre bassin de vie, c'est un autre territoire.
C'est une autre sociologie.
C'est
aussi.
Une autre. Alors, une autre sociologie, bah, en fait, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans la même communauté de communes, on n'est pas sur les mêmes pôles de référence pour nos services publics. Ou sur Corlay, on va être sur l'Oudéac, sur Saint-Brieuc, grosso modo. Sur Saint-Nicolas, ça va être Ostrenin. Leur lycée de secteur, c'est Guingamp. Donc voilà, c'est la communauté de communes du Crès-Brès d'un côté. Et puis nous, on est sur l'Oudéac, communauté de l'autre. On est sur des lieux de travail des parents qui ne sont pas les mêmes. On est sur des lieux de socialisation, une vie associative, une vie culturelle, une vie locale, qui ne sont pas les mêmes bassins. Alors ça ne veut pas dire qu'on est ennemis, hein, bien sûr. C'est juste des systèmes territoriaux qui sont complexes, qui sont construits depuis longtemps et qui ne sont pas les mêmes. Et on vient pulvériser tout ça en fermant le collège de Corlay.
Est-ce que, là aussi, pour les jeunes élèves, parce qu'on a toujours entendu dire les lycées, les collèges où il y a beaucoup, beaucoup d'élèves, et on n'a pas forcément le temps matériel de bien s'occuper des élèves, est-ce que le fait d'avoir un petit effectif, finalement, c'est pas quelque chose de j'allais presque dire privilégié, de pouvoir mieux s'occuper des enfants, des élèves?
Pour le coup, oui. Là, on a une chance énorme. Avoir un petit collège, ça crée des difficultés pour certaines choses, et puis de gros avantages. Et clairement, pour nous, la balance bénéfice-difficulté, elle est largement en faveur des bénéfices. Tout le monde connaît tous les élèves, tous les personnels, pas seulement les personnels enseignants. Au collège à Corlay, les élèves connaissent chaque agent.
Il y a un côté familial, finalement.
Il y a un côté complètement familial. Et donc, on a vraiment une connaissance des familles, une connaissance des élèves. Alors, c'est pas magique, hein. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des conflits, comme partout. Mais on les voit tous et on met des choses en œuvre pour les traiter. Et souvent, on réussit à les régler. Alors, on va vous dire, ah oui, mais il y a quand même des enfants qui changent de collège parce qu'ils n'étaient pas bien. Bah oui, c'est pas du 100%, c'est pas miraculeux non plus. Mais dans tous les collèges, y compris les gros collèges, il y a des enfants qui partent parce qu'ils sont pas bien, et beaucoup plus qu'à Corlay. Et dans tous les collèges et les gros collèges, il y a des enfants qui sont pas bien et personne ne le voit, personne ne fait rien.
Alors il nous reste à peine 3 petites minutes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir de sauver le collège de Corlay? Est-ce que vous discutez avec les différents intervenants au département? Est-ce que le dialogue est toujours présent ou est-ce que c'est difficile?
Alors, il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire qu'on a été reçu 2 fois par le président du conseil départemental, donc il nous laisse parler. On peut parler autant qu'on veut, hein, ils ne vont pas nous empêcher de parler. Ensuite, ils ont prétendu faire de la concertation pour la carte scolaire. Il n'a jamais été question de discuter du principe de fermeture du collège de Corlay, et eux, ils ont dit qu'ils concertaient sur la carte scolaire. Alors, ce n'est pas ça la concertation, on leur répète, on leur dit la concertation, c'est quand on discute avant pour se mettre d'accord. C'est pas quand on vient informer sur ce qui s'est fait. Et donc la carte scolaire, en fait, ils ont redessiné la carte scolaire, ils sont venus voir les maires pour leur dire bah, « vous, maintenant, vous allez être là-bas ». C'est pas de la concertation. Donc les maires de Corlay et puis des communes d'à côté ont refusé de faire semblant de participer à ça. On dit bah, « non, on prend acte de ce que vous nous présentez, mais de toute façon, vous savez ce qu'on pense, on est contre la fermeture du collège de Corlay, on en a besoin ». Donc on ne va pas passer 2 heures à répéter ça pour qu'à la fin, vous gardiez la carte scolaire telle que vous l'avez prévue. Enfin, c'est ce qui se passe. Donc il n'y a aucune concertation, aucune discussion possible. On peut parler dans le vide autant qu'on veut. Ils n'entendent rien, ils refusent le dialogue.
J'imagine que la lutte va continuer pour conserver ce collège de Corlay. Vous êtes optimiste aujourd'hui?
Alors, oui. je réfléchis avant de le dire. En fait, si je ne pensais pas qu'on peut gagner, je ne serais pas à perdre mon temps et on ne serait pas des dizaines de personnes très engagées à quotidiennement travailler là-dessus et des centaines quand il y a besoin de gros rassemblements ou à suivre tout ce qu'on fait, si on ne pensait pas qu'on a une chance de gagner. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a un mur face à nous. On a un département qui a pris une décision antidémocratique, en dépit du bon sens, en dépit de l'intérêt général, en dépit de tous les principes qu'ils ont prétendu défendre. Ce sont des gens, on le rappelle, qui ont été élus en prétendant être partout, toujours, sur tous les territoires, entendre la parole des habitants et renforcer la démocratie. Donc évidemment, là, ils s'assoient dessus bien comme il faut. Ils ne veulent plus en entendre parler de leur programme de campagne et puis ils sous-entendent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais on pense que c'est par la mobilisation maintenue, par la pression maintenue, par le fait d'élargir aussi notre combat, de faire entendre le fait qu'on nous traite de façon scandaleuse, qu'on peut gagner. Mais là, le conseil départemental est isolé, c'est-à-dire que les partis, pour un certain nombre d'entre eux qui les ont portés au pouvoir, sont avec nous. Mais ils disent « on est élus ». Individuellement, on n'a pas à respecter le programme pour lequel on a été élu, on n'a pas à écouter ce que les militants des partis qui ont fait campagne pour nous ont à dire maintenant. On est dans cette démarche-là aujourd'hui et c'est ça qui est scandaleux aussi, quoi.
On va devoir s'arrêter là, Élodie Le Gall, car l'heure, c'est l'heure. En tout cas, on a entendu votre parole, on a entendu la colère que vous portez hein, et la détermination pour sauver ce collège de Corlay, collège en zone rurale. Et nous, on aime bien parler aussi du Centre-Bretagne, à Bretagne 5. C'est important. Merci, Élodie Le Gall, d'être venue jusqu'à nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif de soutien du collège Perrandal. Perrandal, donc situé à Corlay dans les Côtes d'Armor, et on va suivre évidemment le dossier. Merci infiniment d'être venu au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.